Génération Hip Hop Soul Radio.
Très bonne soirée à l'écoute de la Hip Hop Soul Radio. C'est la malle El Pistolero pour l'Octogone. L'Octogone show, c'est tous les dimanches à partir de 20h. Et la question du jour est: pourquoi avoir été destitué de votre fonction de maire? Et pour ça, nous sommes avec l'ancien maire de Trappes, monsieur Ali Rabé. Seul, il a donné une leçon à tous les chroniqueurs de CNews. Victoire par chaos. Bonsoir, monsieur Rabé. Comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous?
Ça va très bien. Pourquoi avoir été destitué de votre ancienne fonction de maire?
Ben parce qu'il y a un an, j'ai gagné une élection municipale à Trappes. C'était pas prévu, hein. À la base, on avait un maire de 83 ans qui était là depuis 20 ans. Et j'ai décidé de me présenter contre lui avec une liste de rassemblement de la gauche. Lui, il a décidé de soutenir Macron. Donc, on a eu des désaccords. Hein. J'étais adjoint au maire et j'ai décidé de me présenter contre lui. Il y avait aussi un candidat de la droite, le candidat de Valérie Pécresse, qui s'appelle Otman Nasrou. Et on a joué un match où moi, j'étais l'outsider. On me voyait arriver dernier de la liste. Finalement, c'est moi qui suis arrivé en premier, au premier tour. Et au deuxième tour, j'ai gagné l'élection municipale de peu.
C'est comme quand Lille gagne le championnat face au Paris Saint-Germain.
Ah, mais moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain, donc là, je suis pas d'accord.
Ouais, mais c'est comme ça.
Des fois, comme ça.
Moi aussi, je suis supporter du Paris Saint-Germain, mais c'est comme
l'année
ça.
L'année dernière, c'était très dur. Mais Lille a mérité sa victoire à la fin.
Exactement.
Ils ont remporté le titre de champion. Ça s'est joué sur la dernière journée du championnat. Mmh. Mais il faut respecter le vainqueur.
Exactement.
La différence, c'est que quand Paris a accepté sa défaite en championnat l'année dernière, aux élections municipales, par contre, mon adversaire, il a refusé d'accepter sa défaite.
Donc, lui, un peu comme Donald Trump aux États-Unis.
Exactement. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs quand il a fait un recours. Lui, il est parti saisir la justice en disant: je veux qu'on recommence l'élection. J'ai perdu que de 3 points et j'estime qu'il faut recommencer l'élection. Il a multiplié les accusations. Il a inventé 12 accusations devant la justice. La justice, elle est obligée d'examiner dans ce cas-là les accusations et elle a tout balayé. Sauf un point. Un point sur lequel il a réussi à convaincre les juges de recommencer l'élection. Pas de me destituer d'ailleurs ou de me sanctionner. Lui, il voulait ça. En fait, il voulait gagner sur tapis vert. C'est un homme qui est incapable de gagner une élection en face à face, à la loyale, en respectant les règles. On est dans un octogone là ce soir.
Exactement.
Il y a des règles, même dans un octogone. Il y a un arbitre.
Exactement.
Lui, il est incapable de gagner à la loyale, donc il a tenté en fait de gagner par la justice. Après, lui, c'est un pantin pour moi. Ses vrais patrons, c'est Valérie Pécresse,
d'accord,
la présidente de la région Île-de-France, qui se rêve présidente de la République, l'héritier de Sarko. Et c'est Jean-Michel Fourgousse, le patron de la droite sur mon...
Qui aura peut-être du mal à être présidente justement de la République.
Ah, moi j'y crois pas, parce que franchement, avec des méthodes pareilles et des amateurs pareils, on peut pas diriger la France. Déjà que ceux qui sont au pouvoir en ce moment, c'est pas très sérieux. Mais si c'était l'équipe de Valérie Pécresse, je serais très très inquiet pour mon pays. Parce que la France, c'est mon pays, moi. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Et je portais jusqu'à il y a encore un mois l'écharpe bleu blanc rouge. Et je mariais les gens et je représentais l'État dans ma ville.
Donc
il a pas accepté sa défaite.
Voilà.
Il a fait un recours devant la justice. Et devinez de quoi il m'a accusé. Il m'a accusé non pas d'avoir bourré les urnes, non pas d'avoir acheté des électeurs comme le font certains dans sa famille politique.
Mmh.
Il m'a accusé d'avoir distribué des masques pendant le confinement qu'on a fabriqué avec des bénévoles de ma ville. On est parti acheter des machines à coudre.
Non, attendez, excusez-moi de vous couper. Déjà, est-ce que je peux vous tutoyer?
On se tutoie sans problème là-bas.
Avec plaisir. Vous êtes, enfin, t'es en train de nous dire là tout de suite qu'ils t'ont reproché.
C'est ça.
D'avoir donné des masques à la population pendant le confinement, donc pendant l'épidémie. Du coronavirus.
Quand on n'en trouvait nulle part.
Quand on n'en trouvait nulle part et qui nous ont obligés et qui nous forçaient à rester chez nous et nous protéger un maximum.
T'as tout compris.
D'accord.
C'est incroyable, mais c'est ça.
Incroyable.
La seule accusation qu'il a portée, c'est celle-là. Et en fait, à l'époque, moi, je décide, c'est même pas moi à la base qui le décide, c'est des bénévoles dans la ville et des personnes dans les quartiers quoi, qui me disent on a envie de fabriquer des masques en tissu, hein. On a des couturiers, on a des gens qui sont débrouillards avec leurs mains, et on est prêt à fabriquer des masques gratuitement et de les donner aux gens. Et en fait, ils vont nous voir le maire de l'époque, le vieux monsieur de 83 ans dont je parlais, qui était là depuis 20 ans.
Vous lui avez donné des masques, j'espère. Ah, il en avait besoin.
Lui, il pouvait s'en acheter, s'en trouver manifestement, parce qu'il était maire de la ville. Ils vont le voir et lui proposent le projet. Ils lui disent: on aimerait bien monter des masques, est-ce que vous pouvez nous aider, nous financer, nous trouver des salles, etc. Et ils donnent pas suite. Donc, les mecs, je les vois sur les réseaux sociaux qui écrivent par Bakou Diarra, une dame formidable qui a été d'ailleurs à la tête d'une liste citoyenne à Trappes aux élections municipales. Et elle commence à s'agiter pour sa ville et pour les gamins de sa ville, tout simplement pour les familles, les parents. Elle, c'est une maman.
Bien sûr.
Et à ce moment-là, rappelez-vous, on ne trouve aucun masque nulle part. Hein.
Mm-hmm.
Les gens, ils prennent un bout de tissu à la maison, un torchon, ils coudent ça à la va-vite et ils l'utilisent pour pouvoir sortir faire leurs courses. Et donc, moi, je vois. Dans mon association, j'étais président d'une association, parce que moi je suis sur le terrain pour le coup, ça fait des années, j'ai créé mon association, on fait du soutien scolaire, on fait des sorties pour les gamins, on les emmène au musée, on leur fait découvrir la culture. On essaie de sortir les gens du bitume, quoi, et leur permettre d'avoir ce que nous on n'avait pas quand on était petit.
Mmh.
Et donc, avec cette association, on se dit on va mutualiser nos forces.
L'association Cœur de Trappe, c'est ça?
Exactement, Cœur de Trappe, ça s'appelle. Donc on mutualise nos forces, l'association Cœur de Trappe, d'autres associations de la ville, une association de couturières qui s'appelle Les Fils de Fleurs, et ces citoyens qui voulaient s'investir. Et qu'est-ce qu'on fait? On va acheter des machines à coudre à Lidl. Vous savez, les machines à coudre en réduction de Lidl, là, les gens ils se précipitent pour les acheter. Mais on va faire la queue à 8h du matin à l'ouverture pour pouvoir acheter des machines à coudre. Véridique ce que je vous dis là. Hein.
Donc ça veut dire que l'ancien maire de Trappe allait à Lidl. Il va faire ses courses à Lidl.
Ah, mais de toute façon, je vais faire mes courses à Lidl, moi, depuis que je suis petit.
Bravo. Bravo.
Ouais, ça, c'est la vie. Tu sais, ça, c'est marrant ce que tu dis, Lamal, parce que quand je fais mes courses à Lidl et que je croise des gens de Trappe, ils sont toujours hallucinés. Ils disent, le maire, il fait ses courses à Lidl.
Choqué.
Mais moi, depuis que je suis né, en fait, on fait nos courses à Lidl. Justement. Depuis que Lidl existe, en fait.
Justement, moi, j'avais une question par rapport à ça. T'as étudié à l'université de Versailles.
Ouais.
C'est ça?
C'est ça.
Et tu es d'origine marocaine.
Ouais.
C'est rare déjà, une personne qui est d'origine marocaine et qui étudie à Versailles.
Ouais.
Est-ce que tu as eu des complications quand tu étais jeune, justement, à l'université, dû à tes origines?
Pas que à l'université. Bon, le truc, moi, j'ai grandi dans une cité. Mes parents, ils sont effectivement, tu l'as dit, ils sont de l'immigration marocaine. Hein. Mmh. Moi, je suis de la deuxième génération. Hein. Même si je suis jeune, je suis que de la deuxième génération. Ils sont venus dans les années 70 du Maroc. Mon père, fin des années 60. Ensuite, ma mère en regroupement familial. Ils ont fait 6 enfants, 6 garçons. Et on a tous été à l'école. On a essayé de s'en sortir comme on pouvait. Moi, j'avais des facilités, comme on dit, à l'école. J'avais un bon niveau scolaire. Je travaillais pas beaucoup, mais j'avais un bon niveau scolaire. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir avoir mon bac et ensuite m'inscrire à l'université. Mais c'est vrai que toute ta vie, tu dois le vivre là mal. Tout le monde, tous ceux qui ont un parcours un peu similaire le savent. Moi, je sais ce que c'est qu'un contrôle au faciès. J'en ai vécu toute mon enfance. Et je le dis, je l'assume. Et je suis un maire aujourd'hui de la République. Je porte l'écharpe bleu-blanc-rouge et je dis, il faut se battre contre les contrôles au faciès. On m'accuse là, pendant la campagne, par exemple, mes adversaires de droite me disent, ah, dans les tracts, hein, ils participent aux manifestations en soutien à Adama Traoré. Le comité Adama est venu avec Assa Traoré. Tu le sais, t'es dit, dans ma ville. Et moi, je suis venu comme maire apporter mon soutien et faire un témoignage. Parce que j'estime que. Moi, je respecte la police. Hein. Je pense qu'on a besoin de policiers dans nos cités, dans nos quartiers, qu'on a besoin d'être protégés, etc. Mais les violences policières, c'est un fléau qui touche d'abord la police, d'ailleurs, qui la discrédite aux yeux des concitoyens. Et derrière, c'est une violence pour la totalité de la population.
Excuse-moi de te couper, mais justement, c'est intéressant ce que tu dis. Pourquoi on ne pourrait pas être maire et être contre les injustices?
Bah si, mais tu sais quoi, on doit la malle. C'est pas juste qu'on peut pas, c'est on doit l'être.
Exactement.
Et d'ailleurs, qu'on soit maire, président
mais
d'association,
comment
chef d'entreprise.
Comment on peut te le reprocher en fait?
Bah, ils l'écrivent noir sur blanc. Ali Rabet, ils prennent des photos. Ils les mettent sur Twitter, etc. Et ils disent, regardez, il est avec des voyous, etc. Mais moi, je suis très fier d'avoir soutenu le comité Adama. Il n'y a pas de problème, je l'assume, je le revendique. Et je le referai, évidemment, si c'était à refaire. J'ai participé à la plupart des manifs, la manif annuelle qui est organisée dans le 95. J'y vais à chaque fois et j'en suis très fier.
Et donc, voilà,
les discriminations, je connais, que ce soit en tant que personne typée, comme on dit, hein, que ce soit au moment d'entrer à l'université, de choisir son orientation. Enfin, très tôt, je vous raconte une anecdote qui m'avait marqué. Moi, j'étais au collège. Il y avait un gamin qui avait perdu ses clés. Enfin, il avait. Je te la racontais. En fait, moi, je suis en classe. Pendant une année, c'était en cinquième. Moi, j'avais un bon niveau scolaire, je te disais. Donc, ils me mettent dans la classe des gens qui s'en sortent pas mal, tu vois. Donc, ils me mettent plutôt avec des gens qui viennent des villages. Voilà, bon petit niveau. Et on est 3 ou 4 rebeux dans la classe. Dans les autres classes, il y a tous les rebeux et les renois de notre quartier. Et on parque, en fait, les mecs de la cité d'un côté. Et les mecs qui viennent des villages de l'autre côté. Et moi, on me sort, si tu veux, c'est l'arabe qui cache la forêt, comme dirait Jamel Debbouze. On me met dans la classe de ceux qui s'en sortent bien. Et on est 3. Un jour, on est en cours de français avec Madame CIT, je me rappelle de ça dans le détail. Tu te rappelles toujours des injustices que tu vis.
Ouais, exactement.
Il y a le CPE qui rentre, qui nous désigne tous les trois robeux, et qui nous dit suivez-moi. On le suit, on sait pas pourquoi. On va dans son bureau, il nous dit qui a volé les clés d'un tel. Michael, le prénom du mec. Pas donné son nom de famille. On se regarde, et en plus, tu sais, dans ces moments-là, tu dis, c'est peut-être l'autre. Donc, tu sais pas. Donc, vraiment, on sait pas. Donc, on dit, jamais, c'est pas moi, sur la tête de ma mère, etc. Le mec, évidemment, il nous croit pas. Et le gars, il dit, sortez de mon bureau, on vous laisse la journée. Dans la journée, demain matin, si vous ramenez pas les clés, vous êtes virés tous les trois. Donc, nous, on sort. Et tu vois, le stress, cinquième, hein, gamin de 12 ans.
Ouais,
et on se parle. Et
chacun dit, ouais, c'est toi.
Et tout le monde jure, c'est pas moi, je te jure, c'est pas moi. Donc là, on se dit, mais c'est pas possible, on est victime d'une injustice de dingue. Et moi, je me rappelle très bien, je rentre chez moi le soir, je suis mal, je sais pas comment le dire à mes parents. En sixième, j'ai déjà été viré quelques jours pour une petite connerie. Et je me dis, j'ai récidive, mon père. Et donc, je le dis pas à mes parents, je me dis, il va peut-être se passer un miracle le lendemain. Et on sait pas quoi faire. T'es dans ce moment-là, comment tu te sors de l'injustice? Le lendemain matin, il revient en classe, il nous reconvoque. Et cette fois avec le gamin qui nous a dénoncé d'avoir volé ses clés. Le mec, il regarde ses pompes dans le bureau du CPE et de la principale. Il nous gueule dessus. Et nous, on jure. Mais là, il voit qu'on a, on est sincère quand même. Parce que là, il y en a un qui s'est mis à pleurer et tout. Enfin, on était en mode, mais qu'est-ce qu'on fait pour se sortir d'une injustice pareille? Et là, le CPE, d'ailleurs, j'oublierai, il s'appelait Monsieur Bonvoisin. J'oublierai jamais ce mec-là. Parce qu'il y a des mecs honnêtes quand même.
On va aller frapper chez lui alors.
Il faut que je le retrouve.
C'est un bon voisin.
Ce mec-là, il comprend qu'il y a un truc qui va pas. Il sort du bureau, il prend avec lui le petit, et il lui dit, on l'entend crier à travers la porte. Au bout de 5 minutes, on l'entend gueuler. Après, il rentre, il dit, répète ce que tu viens de me dire devant la principale, qui pendant ce temps nous menaçait déjà de porter plainte, etc. Et il dit, en fait, je les avais oubliés chez moi, je les avais perdus chez moi, je les ai retrouvés hier soir et j'ai injustement, en gros, accusé les trois rebeux de la classe. Donc ça, quand tu le vis quand t'es en 5e, t'es vacciné à vie et tu sais que de toute façon, sans victimisation ni quoi que ce soit, après tu fais ton chemin hein, et tu peux contrarier, la preuve, mon parcours, le destin qu'on décide parfois pour toi. Mais tu sais que parfois, rien qu'à cause de ton nom et de ta tête, tu seras jugé, stigmatisé par des gens qui te connaissent pas.
Justement, tu as vécu des injustices, tu as été maire de Trappes, tu vas peut-être l'être prochainement.
Quelques jours, j'espère.
Bien sûr.
J'ai une question, comment on fait? Est-ce que toi, dans ta ville, justement, à Trappes, tu te bats justement avec la police, justement, contre ces injustices-là?
Ben, j'ai même nommé une adjointe en charge de la lutte contre les discriminations, pour l'égalité, femmes-hommes, etc., contre le racisme, etc. J'ai vraiment voulu nommer une élue en charge de ça, parce que tu dois afficher et assumer le fait que tu mènes un combat politique là-dessus. C'est pas juste espère que ça se règle naturellement, il faut en faire un combat politique. Et donc voilà, j'ai nommé une adjointe et c'est une discussion constante qu'on a d'ailleurs avec la police sur les méthodes d'intervention, sur ma propre police municipale d'ailleurs. On a choisi d'étoffer, de renforcer la police municipale et je recrute des policiers municipaux. Et pendant les entretiens d'embauche, je les questionne justement là-dessus sur leur éthique. Je peux te raconter une anecdote? On a
bien
encore
sûr,
un peu de temps.
Bien sûr.
Il y a un policier que j'ai embauché.
Donc c'est le maire, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas et qui ne comprennent pas, c'est le maire qui embauche les polices.
Uniquement municipaux, hein. La nationale malheureusement n'a pas le pouvoir, c'est l'État qui gère, le ministre de l'Intérieur, le préfet, etc. D'accord. Mais la police municipale, c'est toi qui embauches, c'est des salariés de la ville.
D'accord.
Et par contre, tu peux embaucher des gens qui viennent de la police nationale ou de la gendarmerie. D'ailleurs, j'en ai embauché 3 cette année. Et donc il y en a un, j'oublierai jamais cet entretien, je lui dis pourquoi est-ce que vous voulez venir en police municipale? Parce qu'en général, quand tu es dans la police nationale, tu préfères rester dans la nationale plutôt que de venir en municipale.
Bien sûr.
Donc je lui pose la question, un peu piège. Pourquoi vous avez décidé de candidater à Trappes, c'est pas n'importe quelle ville, et dans la police municipale? Il me dit, je suis dégoûté parce que j'ai vécu dans la police nationale. Et je lui dis, racontez-moi. Le mec, il vient de La Réunion, l'île de La Réunion. C'est à La Réunion, là-bas, il n'y a pas de problème pour le coup de très peu de problèmes de racisme. Les gens, ils vivent ensemble, quelle que soit leur couleur, ils ne se jugent pas par rapport à ça. Donc lui, il a baigné là-dedans. Il est réunionnais, il est noir de peau, il vient en métropole, parce que la plupart de ceux qui réussissent le concours, ils viennent en métropole pour exercer. Il vient en métropole et il fait plusieurs postes. Il fait des postes, c'est juste de surveillance de base devant les bâtiments, etc. Puis à un moment donné, il postule et il est pris à la police de l'air aux frontières, où il gère les centres de rétention, tu sais, là où on met les sans-papiers.
On met tous les sans-papiers.
Exactement. Un jour, il voit un collègue à lui qui tabasse, vraiment qui tabasse un sans-papier, gratuitement. Le mec, il est au sol et il le frappe à coups de matraque. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Le gars, il fait un rapport. Il dit à sa hiérarchie, voilà de quoi j'ai été témoin, il n'y avait aucune raison, le type était maîtrisé, il n'était pas agressif, et mon collègue l'a matraqué, quoi. Il fait ce rapport pour dénoncer ce qu'il constate être une violation de la loi, c'est la vérité, c'est une violation de la loi. Et il me dit, je suis convoqué par mon supérieur hiérarchique, donc je pense que c'est pour témoigner que le mec me convoque. Et le mec me dit, entre un immigré et un collègue, vous choisissez l'immigré. Il lui dit ça. Donc le mec, il me dit, j'étais dégoûté, j'ai demandé à quitter, parce que c'est du coup lui qui doit quitter, vous vous rendez compte, c'est pas le gars qui a...
Terrible.
Il quitte pour aller travailler dans un commissariat d'une ville voisine et pour bosser plutôt sur les violences faites aux femmes, etc. Puis après, il s'est dit, je vais aller dans un job, dans un corps, la police municipale, où la relation avec les habitants, elle est plus apaisée, où le but, c'est pas de fracasser, de faire le cow-boy, etc. Et moi, je pense qu'on a une police qui doit être renforcée dans ses effectifs, dans ses moyens. Vous savez, les mecs, ils travaillent dans des bureaux, c'est indigne. Moi, les bureaux de la mairie sont beaucoup plus propres et clean que les bureaux dans les commissariats de police de l'État. Donc déjà que l'État montre l'exemple et traite bien ses fonctionnaires, et peut-être que les fonctionnaires à leur tour vont bien traiter les citoyens. Quand tu maltraites des mecs, ils maltraitent à leur tour sur le terrain. Donc il faut qu'on respecte notre police, il faut remettre des effectifs, mais il faut aussi bien recruter.
Moi, j'ai une question déjà, en parlant de discrimination, j'aimerais savoir, est-ce que déjà, on connaît, il y a de la discrimination entre maires? Je m'explique. Maire de Trappes, 78, banlieue, à gauche. Maire de Levallois-Perret, un peu plus aisé. Quand je vois M. Ali Rabet à côté de moi, est-ce que je le prends de haut ou pas? ou je le prends en tant que maire au même niveau.
Moi, j'ai appris un truc très tôt, c'est de jamais baisser les yeux. Tu vois, je considère, moi, je vais pas estimer ma valeur en fonction du regard qu'on me porte. Okay. Encore plus des mecs qui sont dans le système depuis 70 ans et qui héritent de père en fils, qui n'ont pas de mérite particulier, hein, mais qui héritent de père en fils des mandats ou des positions dans les entreprises. Donc, j'attends pas qu'on me respecte, je me fais respecter. Et donc j'estime que quand je vais dans une réunion, quand je m'exprime, c'est ma façon de m'exprimer, c'est mon intelligence, c'est mon expérience qui plaide pour moi. C'est pas le regard de l'autre qui peut être condescendant, méprisant, j'en ai rien à foutre. Mais vraiment rien, ça ne m'atteint pas.
On te l'a déjà fait ressentir ça ou pas?
Tout, mais bien sûr, évidemment. Il y a des mecs, enfin, il y a eu une polémique au mois de février avec un prof de philosophie, et on a eu un moment de tension nationale autour de Trappe. Tout le monde parlait que de Trappe sans jamais avoir mis les pieds à Trappe. Et à ce moment-là, j'ai vu des hommes et des femmes politiques, à l'autre bout de la France, qui avaient jamais mis de leur vie leurs pieds à Trappe, qui se permettait de juger sévèrement le maire. Je rappelle que moi, j'étais maire à ce moment-là depuis 6 mois. Hein, et il m'accablait de tous les maux de la terre. J'étais responsable de tout ce qui n'allait pas. Du terrorisme international, quasiment. Juste parce que je m'appelle Ali Rabet.
Ouais, parce que vous étiez rebeu.
C'est insupportable. Je vais donner un autre exemple, récemment, là. Quand il y a eu la décision de refaire les élections. Il y a un maire à l'autre bout de la France. J'ai oublié le nom de la ville. C'est dans le Tarn, je crois. Dans une ville quelconque, un maire, Les Républicains, du parti de Madame Pécresse, etc. Ce type, il fait un tweet au moment, tu sais, où à Kaboul, les talibans prennent le pouvoir. Il fait un tweet, il dit « Ali Rabet, il y a un poste qui se libère à Kaboul, vous devriez vous présenter là-bas. » Tu vois, le mec, je ne lui ai jamais parlé, je ne le connais pas. Il ne sait pas ce que je suis, il ne sait pas ce que je vaux, il ne sait pas ce que j'ai fait dans ma vie. Mais il tweet comme ça. Tu vois un peu ce qui se passe dans la tête malade de quelques-uns.
Là, je suis obligé de faire... un petit jeu de mots parce que moi je suis comme ça. Attrape-moi si tu peux. Voilà, on est des rebelles, on va se dire justement, on se fait la malle, on essaye des trucs. Et en plus, le maire vient de Trappe. Déjà, est-ce que tu penses qu'il y a plus de vices dans la politique ou dans la rue, dans la street?
Beaucoup plus dans la politique.
Pourquoi?
Ben en fait,
il y a plus de mecs de la street en prison alors.
Parce que les délinquants en col blanc, il y en a un là. Qui est un ancien président de la République, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui vient d'être condamné. Est-ce que vous avez vu les politiques, là, se défiler sur les plateaux télé pour dire il faut des peines plus sévères, il faut l'incarcérer, etc. Non. D'ailleurs, lui-même, ils ont retrouvé des tweets à l'époque où il disait toutes les peines de plus de 6 mois, il faut les faire en prison, il ne faut pas les aménager.
Ouais. Bien sûr.
Les récidivistes, il avait dit un truc de fou, s'il dit ceux qui reviennent 17 fois devant le tribunal,
la peine planchée, c'est
il faut les juger. Voilà. Ouais, c'est vrai, avec Rachida Dati. Il faut les juger pour l'ensemble de leur œuvre. Bah là, il faut le juger pour l'ensemble de son œuvre. Il a été condamné déjà 2 reprises. C'est un délinquant. Moi, je dis. Nicolas Sarkozy est un délinquant en col blanc. Il doit être incarcéré pour cela. Et c'est normal. Comme ça, ça rassurera tout le monde sur notre système de justice. Mais il ne sera jamais incarcéré.
Donc la justice, on n'est pas rassuré par la justice. La justice est injuste.
Malheureusement, la justice n'est pas toujours juste, en tout cas. Et malheureusement, la justice, c'est cette chanson de Sniper, il y a celui qui connaît la loi, il y a celui qui connaît le juge. Et c'est un vrai sujet de tous avoir confiance en la justice. Pour ça, il faut des exemples. Jérôme Cahuzac. Un mec qui était ministre du budget, il a fraudé le fisc pendant des années. Il mettait de l'argent en Suisse et à Singapour ou je ne sais quoi. Comment se fait-il qu'il n'a pas fait quelques mois de prison minimum, pour l'exemple? Pendant ce temps, effectivement, vous avez une maman qui va piquer un truc à Carrefour ou je ne sais quoi, ou vous avez une caissière qui va faire une erreur de caisse ou il y aura un trou de 10 euros ou je ne sais quoi, et on va la licencier.
Mais pour moi, en tant qu'homme politique, quand on est dans le monde politique, on sait qu'on arrive dans un monde de requins. On est forcément d'être un peu comme ça aussi.
Bah c'est pas le cas. Et moi c'est ma fierté. Franchement je vous le dis, je viens du terrain, je suis enfant de classe modeste, etc. Fils d'ouvrier, et j'essaie de rester moi-même et d'être un minimum sincère. Et par contre ce qui est vrai, c'est que tu vois, ça fait maintenant 18 ans que je suis investi en politique, et j'en ai vu des pourritures, j'en ai vu des salopards, j'en ai vu des malhonnêtes, j'en ai vu des cyniques, des doubles faces, etc. J'essaie moi de rester moi-même. Et le jour où ce système va finir par m'écarter, bah je m'en irai, c'est pas grave. Mais moi, ma fierté, c'est que je me suis jamais vendu pour personne. J'ai jamais baissé les yeux. Et j'estime que je les baisserai jamais. Et je sais très bien que j'ai autour de moi des gens, ne serait-ce que mes frères et mes parents, qui le jour où ils verront que je suis plus moi-même, ou que je me comporte pas comme je me suis toujours comporté, vont me mettre des baffes derrière la tête, parce que je resterai le 4e de la fratrie, et un parmi beaucoup d'autres.
Tout à l'heure, tu as cité justement Sniper. Tu écoutes du rap?
Ouais.
Un maire qui écoute du rap, ça c'est
lourd. Ça, c'est lourd. Il adore Kerry James.
Voilà, j'allais dire, quel est ton rappeur préféré?
Est-ce que vous savez, j'ai une petite égalité, j'avoue, entre Akhenaton et Kerry James, parce que les deux vraiment m'ont construit. Tu vois, tous on a été construits par des trucs dans la vie. Et parmi les choses qui m'ont construite, moi, il y a ces deux grands artistes du rap français. Kerry James, par exemple, c'est vraiment on n'est pas condamné à l'échec. Quand j'allais à la fac, que je galérais, qu'il y a des gars de ma génération qui dealaient, qui roulaient dans des belles bagnoles. Moi, j'avais pas de bagnole, je rentrais tard le soir de l'université. J'étais obligé de galérer à prendre des trains, à monter sous la pluie jusqu'à mon quartier. Il y a des mecs qui me récupéraient en stop, avec qui j'avais grandi, qui avaient des belles voitures, etc. Et qu'est-ce qui me permettait de rester déterminé et de pas sortir de ma voie, bah c'était d'écouter des grands artistes, des mecs comme Kerry James qui me donnaient la niaque et qui me disaient que j'avais de la valeur et que ma réussite, c'était pas juste ma réussite, mais derrière celle de peut-être de toute une génération. C'est ça ma fierté comme mère aujourd'hui. Je vais te dire, quand je croise des mômes de 8-10 ans qui me regardent en se disant c'est incroyable, c'est possible, ils l'ont fait, en quelque sorte, comme dans le fameux film. Ça, je suis super fier parce que je me dis que ces gamins-là, contrairement à moi peut-être, qui ai quand même réussi à pousser les portes, ils vont se dire en fait c'est possible, lui il l'a fait. Donc c'est possible, donc moi aussi je vais tenter de devenir ingénieur, je vais tenter de devenir médecin. Chacun son rêve, hein. Politique c'est vraiment tu sais, si j'avais un gosse demain, franchement je lui conseillerais pas de faire de la politique, tu prends trop de coups. Tu disais tout à l'heure la différence entre la rue et la politique. Dans la rue, je te jure qu'il y a plus de règles qu'en politique.
Où tu sais qu'il est d'honneur. Tu vois, tu sais, dans la street,
tu sais qui est ton ennemi.
Mais là-dedans, on le voit là dans cette campagne, à des têtes, je te jure, jamais tu aurais pensé que
Eh oui.
Il change de bord comme ça, là. Tu dis, mais hier, t'étais avec nous.
Et le lendemain,
tu retournes ta
veste
côté.
Et on n'est même pas au courant que t'as retourné ta veste.
Et mais même lui, il n'est pas au courant qu'il a retourné sa veste.
Et tu sais, ils disent des propos, tu sais que c'est lui qui a tenu ses propos.
C'est ça.
En termes, justement, tu parlais un peu de dealer, tout ça. Est-ce que tu sais combien coûte un pocheton de bœuf?
Bon, moi, à l'époque, ça coûtait dans les 20 balles, mais ça dépend comment. Moi, le marché de la bœuf, j'ai jamais consommé, moi. Même un joint, tu vois, jamais.
Jamais. T'as jamais acheté de cheat, jamais.
Mais même une cigarette.
Ouais.
Tu vois, moi, c'était mon délire. En fait, j'ai tapé un délire quand j'étais au lycée. J'ai juré que je fumerais jamais. Parce que je me rappelle, des gens voulaient m'engrainer. Et moi, je suis une tête dure. Quand tu m'engraines dans un truc, je fais le contraire. Donc, je me rappelle très bien, je me suis dit, je fumerais jamais. La clope, hein. Je parle même pas de la bleue, etc. À partir du moment où j'ai décidé ça, j'ai jamais changé. Okay. Mes frères fumaient, etc. Moi, jamais.
Quel est l'artiste de trap, que ça soit humoriste ou autre, préfères-tu?
Non, là, je peux pas parce que à côté de moi, il y a Teddy. Si je dis pas Chabaudeau, il va se dire que c'est Chabaudeau, c'est un rappeur de trap qui a fait la banlieue ouest mafia, qui a regroupé énormément d'artistes du 78 et qui essaye de porter haut le drapeau du rap dans les Yvelines. Donc voilà, moi, je suis obligé de promouvoir les artistes de mon cru, de ma ville. C'est mon rôle aussi d'être le porte-parole. Donc Chabaudeau, et il a fait un titre qui s'appelle Le maire de trap. Avec l'écharpe sur la pochette et tout.
Okay.
Ça m'a aussi inspiré, ça. Je me suis dit, pourquoi pas moi?
Voilà, donc tu connais un peu quand même les rappeurs de trap.
Ouais, bien sûr.
Ok,
et on a des vrais talents.
Quel est le pire rappeur de trap?
Ah, non, je vais pas faire ça. Tu veux me mettre à dos des gens de ma vie? C'est pas possible. j'ai un en tête, mais je vais pas le citer. Mais en fait, tu vois, moi, je suis. Mon défaut, c'est que je suis un nostalgique. Donc je suis un peu resté bloqué dans les années 90. Vraiment, moi, je suis de la génération IAM, NTM, évidemment, Kerry James, Sniper, c'était déjà un peu la fin, tu vois, pour moi. Et après, les artistes, le Booba de l'époque, tu vois, le Booba d'aujourd'hui, moi, j'arrive pas, quand j'écoute, c'est tous les trucs vocodés et tout, je suis un peu hermétique. Et d'ailleurs, il faut qu'il arrête, Chabaudeau, de temps en temps, il faut qu'il nous fasse des titres à l'ancienne. Et plus sérieusement, pourquoi je te disais ça? Parce que il y a des gars aujourd'hui, même dans ma ville, et c'est à cela que je pense si tu me dis les pires, ils font du rap, c'est pas du rap. Je suis pas d'accord, je peux pas dire que c'est du rap. C'est peut-être autre chose, c'est une
discipline. Du chant, mais c'est pas du rap.
Non, et puis moi, ce que j'aime aussi, c'est les titres, les chanteurs qui ont du texte aussi, tu vois. C'est pour ça que tout à l'heure, j'entendais votre boss qui citait Renaud, un titre, mais ancien, qui a au moins 50 ans de Renaud, et je respecte beaucoup ça. Pour moi, tu vois, les artistes dont on parle, les rappeurs à texte, etc., c'est les héritiers de Brassens, de Renaud, de Brel, etc. C'est des mecs qui ont une révolte, qui se battent, qui ont des causes à défendre, et notamment ils défendent les petits, les faibles, les fragiles, les gens qui ont besoin justement qu'on soit leur porte-parole. Et depuis Renaud jusqu'à Kerry James, jusqu'à beaucoup d'autres aujourd'hui, il y a un bel héritage.
Omar Sy ou Jamel Debbouze?
Je vais dire Jamel Debbouze juste parce qu'on a plus de proximité. Omar Sy, je le connais pas assez bien personnellement. Donc je dirais Jamel Debbouze si tu me donnes le choix. Mais en réalité, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les deux.
Tu lui as déjà serré la main?
À qui?
À Jamel Debbouze.
Ouais, enfin, laquelle? Là, t'es cruel, là. on se serre pas la main, mais on se salue chaleureusement. Encore qu'il te donne l'autre main, hein. Il te donne la gauche.
Ouais, ok, toujours. D'accord. Ah, toujours à gauche.
Ouais.
Ah. C'est ça.
Ah ouais, non, c'est un bon gars, Jamel.
Ouais, c'est un bon gars.
Et je dirais que, bon, après, je vais pas comparer les deux parce que je suis un mec de trap. Mais Jamel, il a été quand même un moment très investi sur la ville de trap, puisqu'il a été président du club de foot de trap.
Ouais, c'est vrai.
Et il a permis à l'époque, on était, je sais même pas si c'était Excellence, a donné un salaire à un ancien professionnel qui s'appelait Hippolyte Dombéto.
Ouais. Mmh.
Il lui a donné un salaire et on avait eu comme sponsor Tati, Canal+, grâce à Jamel.
Grâce à Jamel.
Donc c'est un grand bonhomme.
Après, ce que je peux témoigner d'un truc, normalement je n'ai pas à le faire, mais les deux agissent pour Trap et pour les familles de Trap et pour les associations de Trap sans jamais le dire et sans jamais faire parler d'eux. Les deux.
C'est important.
Et Jamel Debbouze.
Omar Sy, il est plus discret.
Il est beaucoup
plus fait des trucs. Il a un truc qu'il aime pas que tu dises c'est lui qui a fait, tu vois.
Ça, il est comme ça. C'est pour ça que là, quand je dis ça, je dévoile des trucs voilà. que j'aimerais pas dévoiler.
Mais Jamel,
ça Omar, il a investi dans sa ville, sauf qu'il veut pas que ça se sache. Et
bravo.
Et il veut pas qu'on fasse de pub et j'ai du respect pour ça.
Nicolas Anelka.
Ah, Nicolas Anelka, remarquable. J'ai, pour le coup, la série Netflix, là, le reportage Netflix. Est magnifique parce qu'il rétablit un peu la justice et la vérité. Je supporte pas les injustices depuis que je suis enfant et cet homme-là a été victime, bah, peut-être avant l'heure, tu vois, avant qu'il y ait les Zemmour et compagnie, ils se sont déjà acharnés sur lui parce qu'il vient de Trap et parce qu'il est, il a pas la bonne couleur de peau. Et l'équipe de France, elle a cristallisé à un moment donné tout ce qu'il y avait de malade dans notre pays, de gens
sur
qui,
lui.
Sur lui qui à un moment donné a porté sur ses épaules toute la détestation d'une partie de la France contre ceux qui sont de couleur. Et très injustement. Et depuis le journal L'Équipe, je l'achetais de temps en temps avant. Je ne l'achète plus depuis que j'ai lu le documentaire qui rend justice à Nicolas Anelka.
Bravo. On est avec un jeune aussi du 78 de Mantes-la-Jolie, Anis, le jazz. Avais-tu une question justement à poser
Ouais, justement, parce que nous, dans le 78, on a suivi ton histoire, Ali.
Ouais.
Ah, le rebeu qui se présente aux élections, comme tu as dit, c'est un peu le film Ils l'ont fait,
ouais.
qui notamment était interdit à Trap
ouais,
de diffusion.
Ouais.
Parce que justement, ça montre l'histoire d'un mec de quartier, là en l'occurrence c'est Camara, un Renoir, qui devient maire, justement parce qu'il incite les jeunes du quartier à voter, etc. C'est une belle histoire. Mais au-delà de ça, comme tu es un parfait orateur, tu connais ton sujet, on a vu l'épisode de Morandini,
ouais.
où il t'a un petit peu mis mal à l'aise, alors que d'habitude on te met pas mal à l'aise. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs comment il a fait justement, quelle entourloupe il a fait ? Parce que d'ailleurs tu parlais de sincérité en politique, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour, entre guillemets, réussir à te mettre mal à l'aise ?
Eh ben, moi je suis un mec qui a de l'expérience politique, mais un peu naïf.
Ouais.
Tu vois ? Et j'ai fait une grande erreur. C'est que j'ai considéré que ces gens-là ont une parole. Maintenant je suis vacciné, je sais qu'ils n'ont pas de parole. J'ai eu au téléphone, 5 minutes avant l'émission, au moment où je m'apprête à sortir de chez moi, j'ai un membre de l'équipe de Morandini, et je lui dis, écoutez, si vous me prenez la tête, je vais me questionner sur les histoires, parce que tu sais...
Le fameux prof.
Tu sais, le principe, c'était à l'époque de la polémique avec le fameux prof, où on disait « Trappe est une ville en dehors de la République, il n'y a que des islamistes, il n'y a que des terroristes là-dedans, etc. » À un moment donné, tu sais, tu connais cette phrase de... Je crois que c'était Pasqua ou Seguin, je ne sais plus. Quand il y a une affaire, vous créez une affaire dans l'affaire, puis une affaire dans l'affaire dans l'affaire. Comme ça, vous embrouillez tout le monde et plus personne ne sait qui a fait quoi. Eh bien, quand on commençait à démontrer que ce prof de philo était un mythomane, moi, je le dis, c'est un mythomane. Il y a d'ailleurs des journalistes qui ont bien fait leur travail.
Comme moi aussi, je le dis, oui, bien sûr, on a été ouais, bien,
eh
sûr,
oui.
bien sûr.
Et qui ont démontré que c'est un mythomane. Le mec, il dit, il n'y a pas de coiffeur mixte, il y en a un à 50 mètres de son lycée. Sors de ton lycée, tu verras le coiffeur mixte. Et je passe sur les mensonges qu'il a débités. Alors, quand on a commencé à révéler ça, ils sont allés me faire un procès. Valérie Pécresse, etc., tous ceux qui cherchent.
Ça les arrangeait.
Ben Valérie oui, Pécresse. Parce qu'ils voulaient pas que je réussisse à prouver. Qu'il y avait une stratégie derrière, qu'il y avait un prof d'histoire qui était en vérité un militant politique d'extrême droite, qui tient des discours islamophobes, etc. Et donc à un moment donné, ils ont eu besoin de me faire un procès à moi, de retourner en fait l'accusation. Mmh. Et donc moi j'allais tous les jours, hein, depuis qu'il y a eu la polémique, j'allais au lycée pour soutenir les élèves, pour soutenir le chef d'établissement, pour soutenir les profs. Et j'étais accueilli à bras ouverts, hein, à bras ouverts. On mangeait les croissants ensemble, etc. Avec le proviseur, il y a des photos en plus où on nous voit ensemble, etc. Ils sont allés inventer que je suis rentré de force dans ce lycée. Comme si c'était possible d'imaginer un maire qui escalade. Il y avait des flics hein, devant le lycée. Évidemment, à l'époque, comme il y avait de la tension, risque je sais pas quoi qu'un mec vienne, tire dans le pas, etc. Ils ont mis des flics. Et donc les flics, ils m'ont vu escalader la grille, ils m'ont laissé faire. Non mais c'est n'importe quoi, c'est pas crédible. Donc ils sont allés inventer ça. Et moi, Morandini, il commence à laisser entendre qu'on va nous questionner là-dessus. Je lui dis, écoutez, si c'est pour parler de ça, moi je suis là pour vous parler de Trap, des réalités de Trap. Si vous voulez me parler de cette polémique que mes adversaires inventent pour détourner l'attention des vrais sujets, je refuse. Faites l'émission sans moi, il n'y a pas de problème. Vous allez interroger, il y a plein de trappistes sur le marché, allez leur parler. D'ailleurs, c'est à ça que j'avais fait. Moi, j'avais dit à tous les journalistes, venez, faites votre enquête, vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Venez dire, s'il y a des problèmes, montrez les problèmes. S'il y a des choses qui vont bien, montrez ce qui va bien. Il me dit, non, monsieur le maire, on vous jure, on ne va pas aborder le sujet. Et au moment où j'arrive face caméra, qu'est-ce qu'il fait? Il aborde le sujet. Ah, donc moi, je me dis, mais ces gens, ils n'ont pas de parole. Et on le voit à la caméra, je suis stupéfait, en fait. Je suis face à lui, je me dis, mais c'est pas vrai. Et en fait, à ce moment-là, heureusement qu'on n'est pas, hein, heureusement que je suis maire, qu'on n'est pas dans notre quartier. Parce qu'à ce moment-là, à un moment donné, il faut un octogone pour nous départager. C'est pas possible. Il n'y a que ça qui permet de soulager ses nerfs.
Monsieur Morandini, venez dans l'octogone sur Génération.
Non, mais franchement,
vous battre.
Non, on va pas se battre avec l'intelligence. Mais effectivement,
ah oui, de toute façon, là, on se bat que avec l'intelligence.
Et je vais dire un truc cash. C'est que, aborder à ce moment-là cette histoire inventée d'intrusion dans un lycée, j'avais eu le malheur de distribuer une lettre aux jeunes en leur disant ne vous faites pas condamner à l'avance, ne désespérez pas, ne laissez pas les gens vous insulter, etc. Vous n'êtes pas condamné à l'échec. Et je cite Kerry James dans la lettre. Voilà, j'essaie de donner de l'espoir à des gamins. Et justement, ça, on l'a jamais pardonné. Et donc, du coup, ce que j'aurais dû lui dire à ce moment-là, c'est hors sujet, mon ami, ce que vous m'évoquez sur ce lycée. C'est aussi hors sujet que si aujourd'hui je décidais d'aborder la question de la pédophilie ou des agressions sexuelles commises par des journalistes qui pourtant continuent à parler sur les plateaux télé. Si vous voyez de quoi je parle, de qui je parle.
Du coup, toi qui es fan d'Akhenaton, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que tu penses que tu représentes la fin de leur monde?
Ah, j'espère bien. J'en suis convaincu du fond de mon âme. Tu vois? J'en suis convaincu du fond de mon âme. En fait, on vit, je crois, j'espère, il faut qu'on se batte pour ça, tous, à notre place. On vit, en fait, la dernière agonie, le dernier spasme, en fait, d'un système de gens qui, d'ailleurs, Zemmour le dit bien, qui croient, en fait, qu'ils vont réussir à faire revivre un monde qui n'a jamais existé autrement que dans leur fantasme. La France blanche, gauloise, elle n'existe pas depuis au moins 2000 ans. Même plus que ça. Il faut arrêter de fantasmer. Zemmour lui-même, vous voyez, son nom dit d'où il vient. Et beaucoup d'autres. Donc, à un moment donné, on est un pays de métissage. On a un pays où on se juge pas en fonction de sa couleur de peau. J'ai autant de respect pour un blanc, un noir, un arabe, un vert, un jaune, peu importe. Et il faut se respecter pour ce qu'on est, se mélanger, c'est ce qu'on fait déjà. La France est le pays d'Europe où il y a le plus de mélanges, de mariages mixtes. Il faut arrêter de laisser parler et nous dominer ceux qui veulent d'un monde qui n'existe pas, qui n'existera jamais. Nous sommes leur cauchemar. Eh bien, nous sommes tout simplement l'avenir de la France et eux, ils disparaîtront dans les poubelles de l'histoire.
Monsieur Ali Rabet. Et ça fait Bourdin. Hein? C'est du lourd, ça. Hein? Monsieur Ali Rabet. Un dernier mot pour nos auditeurs. Un dernier mot. Ouais, pour nos auditeurs.
Bah écoutez, souvent ceux qui écoutent votre radio, c'est des gens de banlieue, c'est des gens qui se sont fabriqués par eux-mêmes. Moi, je veux vous dire à tous, beaucoup d'entre vous d'ailleurs m'ont écrit des messages à l'époque pour me dire on est fiers de votre discours, de ce que vous dites, de ce que vous faites et de la façon dont vous avez rembarré à l'antenne des gens d'extrême droite manifestement. Par pitié, tous à la place qui est la vôtre, que vous soyez ouvrier, chef de chantier, médecin, homme ou femme politique, ne baissez plus les yeux. Vous êtes des hommes et des femmes dignes. Regardez ceux qui vous regardent en face. Vous valez souvent mieux que ceux qui vous critiquent. Ne baissez jamais le regard et défendez ce que vous êtes, quitte à payer le prix fort.
J'ai une dernière question quand même, Ali. Quand on est maire et musulman, est-ce qu'on peut pratiquer sa religion normalement?
Bon, déjà, normalement, un élu, un maire, il n'a pas à dire je suis catholique, musulman, juif ou autre chose.
Okay.
Même athée. Mais il y en a certains qui tirent des conséquences juste à ton nom, ton prénom et ta tête. Donc moi, je l'assume, je vais pas le cacher, je suis musulman. Je suis musulman de naissance, de culture, de tradition, de confession. Je suis par ailleurs pratiquant, ce qui fait pas de moi un terroriste, comme la plupart des pratiquants de ce pays. Et oui, j'ai une pratique religieuse. Je la fais dans la discrétion et dans la vie privée. Je m'affiche pas, j'ai pas besoin, je suis d'abord un Français. Personne ne peut m'entraver dans ma pratique religieuse. Par contre, je le dis, les hommes et les femmes politiques, quelle que soit leur confession, devraient laisser ça à la maison. Moi, je trouve ça scandaleux qu'on fasse des procès d'intention à des gens qui seraient musulmans, par exemple. Et je me rappelle très bien, je ne sais pas si vous avez cette image en tête, Johnny Hallyday, au moment de sa mort. Il y a eu tout un hommage national. Il y a eu sa tombe qui était exhibée. Et il y a eu le défilé des hommes et des femmes politiques. Et vous allez dire que je suis obsessionnel sur Valérie Pécresse, mais je me rappelle qu'au moment où elle sait que toutes les caméras sont braquées sur elle, elle arrive sur la tombe et elle esquisse un signe de croix très net, très clair. Ben moi, comme maire, je m'interdirais ça. Dans la place publique, devant les caméras, j'exhiberais pas ma confession ou ma pratique religieuse parce que j'estime qu'il faut respecter la laïcité en étant capable de ne pas faire de signe ostensible quand on représente la République et qu'on est en représentation de la République. C'est ce qu'elle faisait ce jour-là. Elle n'a pas eu la bonne attitude. Alors, j'en ai marre qu'on stigmatise certains qui n'auraient pas la bonne confession. Et qu'à l'inverse, on laisse tout faire à d'autres sans jamais leur faire de mauvais de procès.
Monsieur Ali Rabet, est-ce que vous vous engagez, je m'en régale, est-ce que vous vous engagez à revenir sur Génération dans l'Octogone si vous êtes maire de Trappes?
Avec grand plaisir. Mais alors si en plus vous venez à Trappes avec le studio, c'est encore mieux.
On viendra, on s'engage.
Super.
Merci en tout cas, Monsieur Ali Rabet, ça m'a fait plaisir. Merci Teddy, merci le Diez Anis. De vous avoir reçu dans l'octogone. Bonne soirée à tous, on se retrouve
merci
dimanche
à la
prochain
à toute l'équipe
à partir de 20h.
Génération Hip Hop Soul Radio.